on n'est plus touché et on devient blasé, mais de temps en temps, on a besoin d'être un peu secoué par le Seigneur, moi compris, et d'aller dans la parole de Dieu, aussi de voir certaines histoires de réveil qui ont eu lieu dans des églises, dans des régions, dans des pays. C'est quelque chose qui nous donne envie d'aller plus loin avec le Seigneur, qui nous motive. Et ce sera donc le but de ces messages. Aujourd'hui, nous allons surtout parler de l'importance de se réveiller. Et c'est le réveil personnel, parce qu'il y a le réveil collectif, si on peut dire, où le Saint-Esprit, on peut dire, arrive dans une église ou même sur un pays et il se passe des choses spirituelles très fortes. Mais il y a aussi le réveil personnel qui est important et ça doit être toujours vrai, toujours là. L'idée d'un réveil spirituel n'est pas une invention des hommes, c'est quelque chose qu'on trouve dans la parole de Dieu. Et par exemple, si vous prenez avec moi la deuxième épître à Timothée, chapitre 1, verset 6. Deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 1, verset 6. Paul écrit à ce jeune pasteur: C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Il dit, il faut que tu ranimes la flamme, que tu réveilles la flamme. Et c'est une exhortation à un pasteur. Donc on pourrait dire, mais c'est un pasteur. Eh bien, tout le monde a besoin de ranimer sa flamme. C'est quelque chose d'universel chez les croyants. Et j'aime bien cette idée de la flamme. Le feu s'éteint. Il faut vite souffler dessus. Le souffle dans la Bible, c'est le Saint-Esprit, hein, et il faut que le Saint-Esprit vienne apporter la vie à nouveau et nous ranimer. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait dit par le prophète Ésaïe au chapitre 57 aussi qu'il était venu ranimer les esprits. Ésaïe 57, verset 15. Ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Et parfois, on est dans le doute, dans le désespoir, on est contrit ou on est affligé d'une épreuve terrible, et on a besoin d'être ranimé, d'être boosté. Et le Seigneur a dit, moi j'habite les lieux élevés, dans la sainteté, dans le ciel parfait, mais je suis aussi avec celui qui est en bas, qui est dans la difficulté. Et on voit la compassion de notre Seigneur. Il y a l'idée de ranimer une flamme, mais il y a aussi l'idée de remuer, de réveiller l'esprit. Dans Esdras, chapitre 1, verset 5, par exemple. Donc, c'est après les chroniques dans l'Ancien Testament. Le livre d'Esdras était un scribe qui a été l'instrument d'un réveil en Israël, justement. C'est-à-dire c'était un docteur de la loi, un copiste qui enseignait la parole de Dieu et Dieu l'a utilisé pour amener tout Israël à revenir à lui, à se repentir et à reprendre le bon chemin. Au chapitre 1 et au verset 5, les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. À cette époque-là, le temple était détruit, il fallait rebâtir et tout le monde était endormi. Voilà. Les gens n'avaient pas assez de courage, de sentiment d'urgence qu'il fallait rebâtir ce temple. Ils restaient là, ben oui, qu'est-ce qu'on fait? Tu crois? Il faut pas? Non, oui, je ne sais pas. Ils tergiversaient et Dieu a réveillé l'esprit d'un certain nombre de personnes, dont Esdras, pour qu'ils se mettent à bâtir. Et Néhémie avait déjà commencé le travail en faisant rebâtir les murailles, parce que Jérusalem était complètement dévastée, hein, par l'invasion babylonienne. Il avait fait construire la muraille autour, maintenant il fallait reconstruire le temple. Et c'est ce que Dieu a commencé à faire sous Esdras. Mais ce qui est terrible, c'est qu'il y a eu une interruption très longue, parce qu'ils se sont rendormis. Ils ont commencé à rebâtir le temple et puis hop, c'est reparti. Il a fallu que Dieu envoie des prophètes à nouveau pour les réveiller. Et ce que ça nous apprend, c'est que nous, les humains, nous nous endormons. C'est quelque chose d'humain, malheureusement. C'est de se relâcher, d'être blasé, de se laisser aller, de négliger, de s'endormir. Petit à petit, on se démotive. Parfois, on est usé, on s'use. On perd le tranchant et on devient usé. Et voilà, on se repose sur ses lauriers aussi. On dit, ah, bah, tout va bien. Et le Seigneur veut nous réveiller. Et il le dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 13. Verset 11, un verset très fort, très important, qui était pour les chrétiens qui vivaient à Rome. Romains 13, verset 11. Cela importe d'autant plus, donc il parle de l'amour, là, d'aimer. Il faut aimer d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Il dit, voilà, le Seigneur est à la porte. Hein. Ils avaient cette foi que le Seigneur allait revenir d'un moment à l'autre. Et il dit, d'autant plus que vous avez cette foi, maintenant il faut se préparer, il faut être pur, il faut être plein d'amour, il faut être réveillé. Ce n'est pas le moment de dormir, c'est le moment d'être vigilant. Et Jésus a donné plusieurs images avec le voleur. Il dit, il faut pas dormir parce que le voleur, il va venir pendant votre sommeil. Donc, il faut être éveillé pour être là. Et le Seigneur veut qu'on soit éveillé le jour où il viendra, ou le jour où nous mourrons, par exemple. C'est bien aussi qu'on soit près du Seigneur, qu'on ne soit pas des chrétiens endormis. C'est l'heure de vous réveiller. Le réveil sonne. Ce qui est terrible avec l'histoire des croyances, c'est que justement, si vous lisez l'Ancien Testament et si vous regardez l'histoire de l'Église, il y a toujours cette phase, tout va bien, ça monte, et puis on s'endort. Et parfois on s'endort, même on s'éloigne de Dieu. Regardez Israël, ils ont été en Égypte pendant 400 ans. Avant d'aller en Égypte, ils avaient la foi, il y avait Joseph. Il y avait son père, Isaac, et ils étaient pleins de foi, ils connaissaient le Seigneur, et pendant les 400 ans, la foi en l'Éternel s'est perdue plus ou moins. La famille de Moïse avait la foi, puisque c'est pour ça qu'ils l'ont cachée, ils croyaient encore en Yahvé, mais beaucoup d'Hébreux avaient perdu totalement la foi, la connaissance de Yahvé. Et même Moïse, quand l'Éternel se révèle à lui, il dit, quel est ton nom? Il ne connaît pas le nom du Seigneur. Et Dieu doit lui dire, je suis celui qui est. Hein? En hébreu, ça a fait Yahvé. Et après qu'il soit délivré d'une façon extraordinaire, surnaturelle, en quittant l'Égypte, en traversant à sec la mer des roseaux et en se retrouvant à l'abri de l'armée égyptienne, juste après ça, quelques heures après, ils vont prendre tout l'or qu'ils ont, ils vont le fondre et ils vont faire quoi? Un veau d'or, le fameux veau d'or. Et ils vont dire, c'est toi qui nous as sortis d'Égypte. Franchement, quand je lis ce passage, je dis, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe pour en arriver là? Mais il ne faut pas juger trop vite les Israélites. C'est que c'est l'homme, malheureusement, revient à ses anciens péchés. Eux, ils voulaient un Dieu visible. Ils ne voulaient pas un Dieu invisible. L'Éternel était invisible. Quand même, Dieu se montrait par la nuée. Et le feu la nuit. Il y avait quand même une partie visible. Mais pour le reste, Dieu parlait et on ne le voyait pas. Et eux, ils voulaient quelque chose qu'on peut toucher, qu'on peut porter, qu'on peut embrasser, où on peut déposer des offrandes. Et ils ont fait ce veau. Ils avaient l'habitude des veaux, le veau Apis, le veau, le dieu égyptien. Ils ont repris un dieu d'Égypte en plus. Et il y a eu une terrible plaie hein, pour juger cette idolâtrie, pour leur faire comprendre que c'est de l'idolâtrie. Et nous, parfois, le Seigneur nous sauve, hein, quand on pense à la vie qu'on avait parfois, pas tous, mais sans le Seigneur. On était dans l'esclavage, hein, comme les Hébreux. Le Seigneur nous a sortis de là, mais d'une façon si belle. Et au début, Seigneur, on suit la nuée. Ah ouais, je ne veux pas te quitter des yeux, je te suivrai où tu veux, Seigneur. Et puis, dans le désert, on commence à traîner, on commence à perdre de vue, à dire, moi, j'aimerais des choses un peu plus visibles. Là, la foi, ça va, mais j'aimerais plus de réponses claires, là, visibles. Et puis, Seigneur, pourquoi tu me laisses dans ce désert et pourquoi j'ai des épreuves et pourquoi il faut que je mange la manne? C'est-à-dire, pourquoi il faut que je ne peux pas aussi jouir de tout le monde? Et le danger, c'est de faire comme les Israélites, de s'éloigner du Seigneur, de revenir aux anciens péchés, aux anciennes idoles. Le Seigneur a dit, le chien retourne à ce qu'il a vomi. Hein, c'est une expression très orientale, très forte. Hein. C'est pour dire, ne retournez pas à votre vomi. Hein. C'est-à-dire, c'est fini. Ma vie passée, c'est fini. Le baptême, c'est ce symbole. Hein. Je suis mort et je suis ressuscité. Vous avez un nouvel homme, une nouvelle femme qui sort de l'eau et qui marche avec le Seigneur. Nous avons besoin de nous réveiller régulièrement, constamment. Mais attention, il existe des imitations aussi, des faux réveils, des faux feux, des copies mystiques où on prend les effets des réveils et on essaie de les recréer en ayant des postures mystiques ou des expériences avec des chants, des méditations, etc. C'est pas ça le réveil. Le réveil, c'est quelque chose de très concret. C'est pas mystique, c'est très concret, on va en parler. Dans les faux réveils, on met en avant les hommes. On se met soi en avant, on pense à soi. Alors, comment je vais être un grand chrétien, un chrétien extraordinaire, blablabla. Dans les vrais réveils, on recherche intensément la gloire de Dieu et l'homme disparaît. C'est plus les hommes qui conduisent, c'est l'Esprit de Dieu. Je relisais le récit du réveil au Pays de Galles en 1904. Tout le sud du Pays de Galles a été balayé par une puissance spirituelle. Les églises ont été bouleversées, les gens ont été bouleversés. Et il y avait un homme qui a été utilisé dans certains coins qui s'appelait Evan Roberts, donc qui était un jeune homme en plus. Mais quand il dirigeait les réunions, il ne dirigeait rien en fait. Il arrivait là, il dit bonsoir, je suis Evan Roberts, merci d'être venu à la réunion ce soir. Donc les gens venaient le soir, vers 8 heures à peu près, et quelqu'un se mettait à chanter. Donc il chante. Un cantique, les gens connaissaient bien les cantiques, les gens allaient à l'église régulièrement, c'était des bons chrétiens, si on peut dire. Hein. Ils chantent, et puis, donc il va pour parler, et hop, un autre chant, donc il se rassoit, et puis à un moment, quelqu'un prie, et dans sa prière, il y a vraiment des sanglots, la personne dit, Seigneur, je suis vraiment pécheur, je suis un mauvais chrétien, je t'ai désobéi, je reviens à toi de tout cœur, et la personne prie, et là, et puis ensuite un autre chant, et puis une autre personne prie, une autre pleure, et ça jusqu'à 4 heures du matin. Voilà, ça c'est une réunion normale au Pays de Galles pendant le réveil. C'est-à-dire, ça n'arrête pas, personne n'est lassé, personne n'est là en disant, oh, c'est qu'il y a Dieu, vous êtes avec Dieu, il n'y a pas à s'en aller ou à rester, vous êtes avec Dieu. Et surtout, il y a cet intense besoin de dire à Dieu tout ce qu'on a à lui dire, Seigneur, il y a des choses à mettre en règle dans ma vie, Seigneur, remplis mon cœur. Donc ça, c'est la gloire de Dieu. Voilà. Il n'y a pas des hommes qui dirigent quoi que ce soit, c'est vraiment le Seigneur qui est en contrôle. Qu'est-ce que le réveil personnel? Qu'est-ce que ça veut dire l'importance de se réveiller? Le réveil spirituel, personnel, c'est une prise de conscience. Je réalise quelque chose. Et c'est que je ne suis pas, je ne vis pas en conformité avec la vie promise dans la Bible. C'est surtout ça, cette prise de conscience. Il y a des choses dans la Bible, là, il y a plein de choses merveilleuses, et ma vie n'est pas là-dedans. Je ne vis pas ce qui est écrit, je ne vis pas ce salut pleinement, je ne suis pas dans la plénitude du Saint-Esprit, il y a quelque chose qui ne va pas. La source est tarie, la source est bouchée. Ma vie chrétienne devrait être pleine d'amour, de progrès, de foi, de ferveur, de fidélité. Pas forcément des choses spectaculaires. Encore une fois, ce n'est pas le spectaculaire, la vie chrétienne. C'est la fidélité, c'est l'obéissance. Mais il n'y a même plus ça. C'est-à-dire, quand il n'y a plus ça, là, il y a besoin d'un réveil. Seigneur, je prends conscience. Et on réalise, à travers la lecture de la parole, à travers la prière, à travers juste un frère ou une sœur qui dit une chose, au Pays de Galles en particulier, hein, c'était dans un groupe de jeunes. Il y avait une jeune fille, hein, les jeunes filles, qui venait de venir au Seigneur. Donc elle était toute nouvelle. Et il y avait cet immense groupe de jeunes, hein, il y avait des dizaines là. Et c'est le moment de prier les uns après les autres. Et elle se lève. Il y a quelques secondes de silence. Et puis elle dit, « Oh, Seigneur Jésus, je t'aime. » Voilà. Et en disant ça, le Saint-Esprit fait quelque chose. Et les gens commencent à s'asseoir et à pleurer et à dire, « Seigneur, je suis pécheur. » Il y a une conviction de péché qui vient parce que cette fille a dit, « Seigneur Jésus, je t'aime. » Mais elle a dit, bon, avec une... C'était son cœur qui parlait, c'est tout, hein, il n'y avait pas d'autre chose. Mais ils ont réalisé à quel point ils n'aimaient pas le Seigneur, les autres. À quel point ils avaient des mots, mais qui n'avaient plus de sens. Hein. Voilà. Il y a deux aspects dans le réveil personnel, dans cette prise de conscience. Le premier, c'est que je ne veux plus tolérer les péchés que je tolère, les idoles que j'ai laissées, les désobéissances. C'est fini, je ne tolère plus ça. Le deuxième aspect, c'est je veux saisir la plénitude en Christ. Donc il y a un côté négatif, si vous voulez, un côté positif. Négatif, il faut en finir avec les idoles. Positif, il faut avancer avec Dieu, rempli de Dieu. Et on trouve ça dans toute la Bible. Hein. Chaque fois, il faut quand même faire le ménage pour qu'il y ait un réveil. C'est vrai à la maison, c'est vrai avec Pâques, hein, il fallait enlever tout le vin. Tout le levain du pays, le fameux nettoyage de printemps, hein, chez les Juifs. Et ce levain, c'est le symbole du péché dans la Bible. Il fallait faire le ménage, déjà même à la maison. Ne parlons pas dans son cœur, évidemment. Et nous, eh bien, le Seigneur veut qu'on fasse le ménage aussi. Dans le livre d'Ézéchiel, Dieu s'adresse aux sacrificateurs qui sont là dans le temple et Dieu dit « Je vais retirer ma gloire de Jérusalem et du temple. » Et pour les Juifs, la gloire, la Shekinah en hébreu, c'est quelque chose de très très important. S'il n'y a plus la gloire de Dieu, il n'y a plus Dieu. Quand Dieu dit « Je vais retirer ma gloire », il dit « Je vais m'en aller. » Et il avertit à travers Ézéchiel les sacrificateurs, il dit « Mais c'est... Vous n'êtes pas en train de suivre la loi de Dieu, vous n'êtes pas en train de chercher Dieu, d'obéir à Dieu, vous êtes des mauvais bergers. » Et surtout, il révèle une chose, c'est qu'ils avaient une pièce secrète dans le temple où ils gardaient des idoles et où ils les vénéraient en secret. Donc, ils avaient le culte à Yahvé, avec le lieu saint, le lieu très saint, l'autel des holocaustes, l'autel des parfums, le chandelier, les pains de proposition. Ils s'occupaient de tout ça en tant que prêtres. Mais ils avaient une pièce secrète, et là, ils avaient des statues païennes, et ils donnaient des offrandes à ces statues. Les prêtres, les sacrificateurs. Voilà. Bien sûr, personne ne le savait, sauf eux, sauf Dieu. Et Ézéchiel va dénoncer, il dit, il faut enlever ça, sinon la gloire va partir. Et il y a un autre cas dans l'Ancien Testament qui est fort, et c'est là où l'Ancien Testament prend toute sa force, hein, c'est avec ses histoires qui nous enseigne l'histoire de Samson. Samson, il avait la gloire de Dieu. Qu'est-ce que ça lui donnait à Samson, la gloire de Dieu ? La force physique. Voilà. Des fois, la gloire de Dieu donnait autre chose, mais lui, il avait une force surnaturelle qui lui permettait de vaincre les fameux ennemis, parce qu'au temps des juges, les ennemis ne cessaient de harceler Israël. Et lui, tout seul, il pouvait les battre tous ensemble. Hein. Bon. Il avait cette onction du Saint-Esprit qui lui donnait cette force, mais il n'a pas gardé cette onction, il a méprisé cette onction de Dieu. Cette gloire qu'il avait sur lui, il a commencé à aller vers des femmes étrangères et des prostituées et coucher avec toutes sortes de femmes. C'était un, on pourrait dire aujourd'hui, un chaud lapin qui a mélangé les choses sacrées, les choses saintes avec le péché, la débauche. Et donc, il allait chez les Philistins, notamment, les ennemis, hein, Et puis, il courtisait les femmes, il séduisait les femmes, il devait être beau et sa force aussi devait impressionner les femmes. Et il ne s'est pas rendu compte que la gloire de Dieu l'a quitté. Chaque fois, il arrivait à s'en sortir quand les ennemis essayaient de l'assassiner, parce qu'ils se sont dit, si on le tue lui, ça y est, on a gagné la guerre, quoi. Et alors, il était un peu endormi, il attaquait, puis lui, il se sortait de toutes les situations avec sa force. Il se disait, j'ai toujours ma force, donc ça va. Et puis un jour, il n'y avait plus rien. On lui a coupé les cheveux, hein. La Bible dit que sa force était dans ses cheveux. Il ne faut pas penser que c'était ses cheveux qui lui donnaient sa force. C'était le fait qu'il était un Naziréen, c'est-à-dire que les gens, les Naziréens, c'était des hommes en Israël consacrés à Dieu. Et ils ne se coupaient pas les cheveux pendant le temps de leur consécration. Ils avaient donc les cheveux longs pendant tout ce temps. Et le fait de couper les cheveux, ça voulait dire on rompt cette consécration. Et lui, il avait déjà rompu la consécration tout seul, hein, par ses péchés. Mais sa compagne de débauche lui a coupé les cheveux pendant la nuit. Il s'est réveillé, il n'avait plus de force, il ne pouvait plus s'en sortir. Et les ennemis l'ont arrêté, lui ont crevé les yeux et l'ont enfermé et enchaîné. Il a perdu la gloire de Dieu. Ces histoires sont là aussi pour nous, d'hommes, pour nous montrer, attention, tu peux aussi perdre l'onction, la grâce, la gloire de Dieu, si tu la mélanges avec le péché, avec les idoles. Il faut être saint comme Dieu est saint. Saint, ça veut dire consacré, à part pour le Seigneur. On ne peut pas perdre le Saint-Esprit quand on est sauvé. La Bible dit que lorsque nous avons cru en Jésus-Christ, nous avons été scellés du Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Le jour de la rédemption, c'est quand on va entrer dans la gloire, qu'on va ressusciter. Donc on est scellés pour toujours. Donc, on n'a pas à craindre de perdre le Saint-Esprit. Mais on peut craindre de perdre cette onction, cette puissance qui nous garde, qui veille sur nous, qui nous parle, qui nous touche, qui nous donne tout le fruit de l'Esprit. On peut perdre tout le fruit de l'Esprit et être un chrétien lamentable, un mauvais témoignage. Et parfois, Dieu est obligé de retirer ces chrétiens, hein, parce qu'ils font des choses abominables, comme Samson. Samson est mort. Finalement, il s'est repenti juste avant de mourir, mais il est mort, jeune. Le Seigneur nous a promis des choses aussi, et souvent, en tant que chrétien, on ne vit pas au niveau qu'on devrait vivre. Il y a les péchés mignons, les idoles, ça c'est une chose, mais il y a aussi le fait de saisir la vie pleine avec le Seigneur. L'image, c'est l'image du mendiant millionnaire. Hein. Nous sommes millionnaires spirituellement parlant, milliardaires même, et nous vivons comme des mendiants. Nous sommes là, tu peux un peu prier pour moi, ou tu peux faire ci pour moi, tu peux faire ça. Et la foi, la foi. Voilà. Bien sûr, c'est important de prier les uns pour les autres, hein, de porter les fardeaux, ça c'est dans la parole. Mais ma foi doit saisir aussi les choses. Par exemple, Éphésiens 1, 3. C'est un bon verset à connaître. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Vous avez noté le passé composé en français, il nous a bénis, c'est fait. De combien de bénédictions? Vous en avez combien, vous, dans votre Bible? Dans le passage, là, dans le verset. Toute bénédiction, le maximum. C'est pas le Seigneur va te donner trois bénédictions par jour, tu as intérêt à bien les utiliser. On a toutes les bénédictions spirituelles. Oui, mais elles sont où? En Christ, dans les lieux célestes. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on doit monter au ciel, mais c'est par la foi dans le Seigneur ressuscité. Hein. Le Seigneur est assis dans les lieux célestes. Et par la foi au ressuscité, on saisit les bénédictions spirituelles. D'ailleurs, pour l'Église, c'est plutôt des bénédictions spirituelles. Pour Israël, dans l'Ancienne Alliance, c'était beaucoup de bénédictions matérielles qui étaient promises, mais il y avait aussi des bénédictions spirituelles, évidemment. C'est quoi ces bénédictions spirituelles? C'est tout ce qu'on peut demander, Seigneur, quand on dit bénis tel frère, bénis telle sœur, bénis-moi, c'est tout ça, c'est, tout est là, tout est en Christ, toutes ces bénédictions. On n'a pas à les quémander, on n'a pas à dire, oh Seigneur, si tu voulais bien regarder vers moi et me donner 3 ou 4 bénédictions. Non, le Seigneur nous a bénis. Et c'est vrai que quand je prie, parfois j'ai cette attitude de mendiant. Je ne réalise pas ce verset que nous avons été bénis de toutes les bénédictions. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les prendre, il faut les vivre, il faut les saisir par la foi. Seigneur, je veux entrer dans ta bénédiction. Aujourd'hui, tu vas me bénir en me permettant de témoigner à quelqu'un. Tu vas me bénir en me donnant la force dans la maladie. Tu vas me bénir en me donnant d'aimer quelqu'un ou de faire... Il y a plein de bénédictions. Il y en a des milliards. Hein. Dieu est infini. Où sont ces bénédictions dans ma vie? Un autre verset. Jean 7, 38, 39. Celui qui croit en moi, dit Jésus, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Des fleuves d'eau vive. Où sont les fleuves d'eau vive? On dit oui, quand je me suis converti, là, et puis 3 semaines plus tard, c'est fini. Est-ce que c'est ça que Dieu voulait? Est-ce qu'il voulait que les fleuves durent 3 semaines, 1 mois, même 1 an? Dieu veut que ça ne s'arrête pas. Pourquoi? Qui sont ces fleuves? C'est le Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit, vous l'avez pour 1 semaine, 3 semaines, 1 mois? On l'a pour toujours, le Saint-Esprit. Il est toujours là, pour la vie éternelle. Donc les fleuves, ils doivent être là avec. Pourquoi il n'y a pas les fleuves? Ben, c'est Pagnol, hein? On a bouché la source. Vous connaissez hein, l'histoire Manon des sources et la suite aussi. Voilà, c'est dans Jean de Florette que Jean de Florette vient de Paris en espérant faire pousser des œillets et toutes sortes de belles choses. Et il se dit, ce terrain est magnifique, ce climat est magnifique, la maison est magnifique. Et puis, ses ennemis qui le jalousent bouchent la source avec des cailloux. Et il n'y a plus d'eau et sans eau, c'est fini. Et il va aller jusqu'à mourir, se suicider, parce qu'il n'y a plus d'eau. Et je trouve cette histoire fait penser à des vies chrétiennes tragiques. Des chrétiens qui ils se sont bouchés eux-mêmes la source. Hein, ils n'étaient même pas des ennemis. Ils ont bouché la source avec, encore une fois, des péchés, des idoles, des attractions, hein, des choses qui n'ont pas d'intérêt spirituel, au lieu de s'intéresser au Seigneur. Et quand il n'y a pas d'eau, il n'y a rien qui pousse. Quand il n'y a pas le Saint-Esprit dans notre vie chrétienne, il n'y a rien qui pousse. On est un chrétien stérile. Quand on prie, il ne se passe rien. Quand on témoigne, il ne se passe rien. Quand on parle, il ne se passe rien. Quand on chante, il ne se passe rien. Parce qu'il faut qu'il y ait le Saint-Esprit qui donne ses fleuves d'eau vive. On a besoin de retrouver, de déboucher la source pour que les fleuves reviennent en permanence. Dernier verset, Romains 8, 37. Romains 8, 37. Dans toutes ces choses, et là il parle des persécutions terribles que vivaient les Romains, les chrétiens de Rome. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Il ne dit pas nous sommes vainqueurs, ou nous supportons, nous tenons le coup. Il dit nous sommes plus que vainqueurs. C'est-à-dire, nous, face aux persécuteurs, à ceux qui nous torturent, qui nous envoient dans les cirques, qui nous donnent à manger aux bêtes sauvages, nous disons, nous sommes plus que vainqueurs. Où est cette victoire dans nos vies? Cette force, ce courage, cette audace, cette foi absolue, peu importe ce qui m'arrive, je suis plus que vainqueur parce que je suis avec le ressuscité. Qu'est-ce que je peux craindre? On peut, même si on me tue, peu importe, je ressuscite. Je vis pour l'éternité. Et nous ne saisissons pas assez cette victoire en Christ. Nous ne saisissons pas assez ces fleuves du Saint-Esprit. Nous ne saisissons pas assez ces bénédictions qui viennent du Père céleste et qui sont en Christ. Le réveil spirituel dont nous avons tous besoin n'est pas une fin en soi. On ne se réveille pas pour le réveil. On se réveille pour enlever les péchés et marcher dans la vie chrétienne normale. Cette vie de plénitude, cette vie de victoire, cette vie de bénédiction. Avec des épreuves, hein, il ne s'agit pas de dire que ce n'est pas l'évangile de la prospérité. Si tu marches avec Christ, tu n'auras aucune épreuve. Non, tu auras des épreuves. Regardez les Romains, ils étaient persécutés, torturés. Mais dans toutes ces épreuves, tu seras plus que vainqueur. Il faut se lever et se mettre à obéir. L'obéissance est vraiment la clé. Ce n'est pas une expérience qu'on recherche. C'est se lever et dire « Maintenant, je vais commencer à vraiment obéir sérieusement au Seigneur. » Une image que nous trouvons dans la parole de Dieu se trouve en Lévitique, et on va terminer avec ce passage. Lévitique, chapitre 6, c'est la loi sur l'Holocauste. Voilà. Lévitique 6. Les premiers versets. L'Éternel parla à Moïse et dit : Donne cet ordre à Aaron et à ses fils. Dis-leur : Voici la loi de l'Holocauste. L'Holocauste, c'est le sacrifice qui est entièrement donné et brûlé sur l'autel. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin, et le feu brûlera sur l'autel. Le sacrificateur revêtira sa tunique de lin, il mettra des caleçons sur sa chair, il enlèvera la cendre faite par le feu qui aura consumé l'holocauste sur l'autel et il la déposera près de l'autel. Puis il quittera ses vêtements et en mettra d'autres pour porter la cendre hors du camp dans un lieu pur. Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Le feu brûlera continuellement sur l'autel et il ne s'éteindra point. J'aimerais tirer deux choses, puis rajouter une troisième de ce passage. Il faut enlever les cendres pour que le feu reste pur. Quand vous brûlez un animal, il se consume, il y a la graisse, tout ça, ça fait des cendres, et ça finit par boucher et éteindre le feu. Dans les cheminées modernes, vous avez un tiroir à cendres, vous récupérez les cendres et vous les jetez, parce que sinon, les cendres étouffent le feu. Et les cendres, c'est quoi ? Ben, c'est ce qui a déjà été brûlé. Donc c'est ce qui est passé. Ça peut être ma conversion. Quand je me suis converti, voilà. Oui, mais ça fait combien d'années ? Ça fait 20 ans. Bon, il faudrait peut-être passer à autre chose, passer la première vitesse. Ah, tu te rappelles, il y a 15 ans. D'accord, ça fait 15 ans. Hier, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as ? Où sont les bénédictions d'aujourd'hui ? Il faut enlever les cendres des victoires passées et même aussi des échecs passés. Parfois, on reste sur des choses qu'on a vécues, qui nous ont traumatisés ou blessés. Et à cause de ces choses du passé, le feu ne brûle plus. Il y a des chrétiens qui disent « Moi, j'ai été déçu par les chrétiens » ou « J'étais déçu par un pasteur » ou « Déçu par une église » ou « Déçu par Dieu ». J'ai entendu ça aussi. « Dieu n'a pas répondu à ma prière, donc maintenant, je dors. Je boude. » Parce qu'ils ne disent pas ça, mais c'est ça en fait. Ils boudent. Et le feu est éteint et c'est lamentable d'être un chrétien dans cet état. C'est triste, c'est terrible. Dieu veut que le feu brûle continuellement, matin et soir. Où est le feu ? Où sont les fleuves ? Enlevez les cendres. La deuxième chose, il dit, il faut tous les matins apporter du bois, allumer du bois, faire brûler continuellement. Il faut tout le temps s'offrir à Dieu. L'holocauste, c'est le fait de s'offrir, c'est le symbole, hein, de s'offrir soi-même à Dieu. Romains 12, 1, vous connaissez probablement ce verset. Il dit, au reste, frères, je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et le mot culte, c'est vraiment, ça nous fait allusion à l'Ancien Testament, où ils avaient le culte dans le temple. Sauf que le sacrifice, c'est plus un animal, c'est nous. Sauf qu'on ne tue plus nous, c'est un sacrifice vivant, il dit. Hein. On se donne vivant et on se donne à Dieu. Il dit, c'est un culte raisonnable, il faut faire ça régulièrement. Seigneur, je me donne à toi. Parce que qu'est-ce qu'on fait? On reprend notre vie, nos péchés, nos habitudes, etc. et on s'éloigne de Dieu. Surtout si on a une vie assez confortable, finalement, je n'ai plus trop besoin de Dieu, je m'en sors tout seul et on s'éloigne. Mais il faut se reconsacrer, il faut que le feu brûle. Et c'est pour ça qu'on a besoin de se réveiller régulièrement, de venir devant le Seigneur. Et même chaque fois qu'on ouvre la parole de Dieu, il faut être prêt à se remettre en question. Seigneur, parle-moi, qu'est-ce que tu veux me dire? Réveille-moi si je m'endors. Surtout, ne me laisse pas m'endormir. J'aime beaucoup le rôle du passager dans la voiture. Hein. Lorsque vous conduisez la nuit, il essaye de vous garder éveillé. Combien c'est précieux. Quelqu'un qui vous parle, qui dit hey, ça va, tu vas bien? Oui, oui, oui. Parce qu'on s'endort et on peut avoir un accident grave. Et dans la vie chrétienne, hein, il y a des chrétiens, ils ont eu des accidents, pas de voiture, mais des accidents spirituels, moraux, parce qu'ils se sont endormis sur la route. Et on a aussi un rôle hein, de se tenir éveillés les uns les autres, d'être le passager hein, qui tient l'autre éveillé. Que le Seigneur nous donne d'avoir un feu qui brûle et que nous restions toujours vigilants, veillants et priants. Avant de prier, justement, on peut chanter encore.